Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine sportmédable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Bruno Salvé, Clément Muller et Sébastien Baldovini. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du rugby avec la tournée d'automne, de la MotoGP avec la fin du championnat du monde et du tennis avec les Masters de Turin. Nous débattrons ensuite de l'équipe de France de football. Vous fait-elle encore vibrer après une année 2024 en demi-teinte? Et nous terminerons avec les coups de cœur de nos invités. On va donc commencer par le rugby avec vous, Bruno Salvé. Pour la troisième fois consécutive, les Français se sont imposés face aux All Blacks 30-29 d'un petit point. Pour une fois, ce petit point, il est dans le bon sens.
Oui, pour une fois que le point change de camp, donc c'est toujours profitable. Surtout après une prestation quand même qui a été difficile, mais aboutie de la part de l'équipe de France, puisque quand on regarde le score, ne serait-ce que le score, les Français ont marqué un essai de plus, donc 3 essais à 2. Et puis ils ont été beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus appliqués, on va dire, surtout au niveau de l'aspect défensif. Quand on considère que les All Blacks ont tenu 70% de possession sur la première mi-temps, donc ça veut dire qu'il a fallu énormément défendre avec 208 plaquages, donc du côté français.
84% de plaquages réussis.
En plus, oui. Donc c'est une bonne performance pour cette équipe de France qui était en difficulté, on le voit hein, d'ailleurs hein, par rapport aux résultats de ces tests, les nations de l'hémisphère nord sont en difficulté parce que les nations de l'hémisphère sud, eux, arrivent en fin de saison. Ils ont déjà tout le rugby championship qui leur a permis de se préparer. Donc ça fait des équipes qui travaillent ensemble déjà depuis 2-3 mois facilement. Donc qui ont un plan de jeu qui est abouti, qui physiquement ont l'habitude de jouer des matchs à intensité par rapport aux équipes de l'hémisphère nord qui, elles, attaquent leur saison en championnat et puis leur saison internationale.
Ouais. On l'a vu, on a des All Blacks qui étaient quand même bien plus fringants qu'en début de saison sur le rugby championship, justement, où on voit que le plan de jeu de Scott Robertson commence à se mettre vraiment en place. Ouais. Effectivement, ces nations du Sud arrive, mais c'est le cas à chaque tournée d'automne, arrive vraiment le couteau entre les dents en Europe.
Carrément, et puis Scott Robertson a voulu jouer un peu différemment que sur les deux premiers tests sur lesquels ils ont joué contre les Anglais et contre les Irlandais, parce qu'ils avaient énormément usé de jeu au pied sur ces deux premiers tests. Et c'est d'ailleurs ce que les Français s'attendaient à énormément de jeu au pied, donc de ballon haut. Ce qui aussi a favorisé la titularisation de Romain Burros à l'arrière, qui a été très bon, qui est très bon sur ses ballons hauts et qui a été très bon lors de ce match. Et en fin de compte, non, ils ont changé de la stratégie n'était pas la même par rapport aux deux premiers tests. La stratégie, c'était de tenir le ballon et d'essayer justement de mettre énormément d'intensité, de déplacer énormément le ballon et de, ils pensaient asphyxier l'équipe de France et notamment les pousser à la faute au niveau de l'organisation défensive. Soit par des pénalités ou soit trouver des brèches. Et bon, l'équipe de France a vraiment eu un rideau défensif très performant, a commis très peu de fautes, notamment 5 pénalités seulement en première mi-temps avec 70% de possession pour l'équipe adverse. Donc ça démontre bien que l'aspect défensif a été très, très performant.
Malgré tout, les Blacks menaient 17-10 à la mi-temps, donc c'était, ouais. c'était pas gagné. Hein. Il y avait quand même deux brèches qui se sont ouvertes sur deux essais qui ont été assez vite. Et puis voilà, Boudouin qui sonne un peu la révolte de cette équipe de France.
Oui, mais les essais sont bien amenés parce que ça c'est aussi un choix stratégique. Quoi, un choix tactique, pardon, du capitaine hein, et de l'équipe, au lieu de prendre les 3 points et de revenir au score, c'est d'aller taper en touche et de jouer cette touche à 5 mètres de la ligne qui s'est conclue par un premier essai. Et ensuite, l'opportunité de récupérer un ballon, toujours sur une montée défensive très, on va dire, performante de l'équipe de France, de récupérer ce ballon où Thomas Ramos joue au pied et la fusée Bielbarré nous on le connaissait parce qu'on le voit souvent jouer en championnat, mais les Blacks ne s'attendaient pas à ce qu'un joueur soit aussi rapide que lui. Et c'est vrai qu'il même Reeves, le Fidjien, n'a pas pu revenir sur lui et donc a conclu un magnifique essai et d'ailleurs a été très performant sur ce match-là.
L'essai est absolument magnifique, effectivement. Vous avez utilisé le terme de fusée, c'est vraiment ça. Il part avec 5 mètres de retard, il arrive avec 2 mètres d'avance, donc tout en ayant récupéré le ballon au passage.
Irrattrapable, ouais, ouais, c'est un joueur très très rapide, très véloce, très jeune, 21 ans à peine. Donc, comme on dit, si les petits cochons ne le mangent pas... Je pense que c'est un joueur qui va faire une très longue carrière.
Bon, vous avez parlé aussi de Thomas Ramos, qui a été absolument parfait au pied, mais pas que. Il y a vraiment, sur ce poste où il était, pour une fois, il n'était pas à l'arrière. Il a excellé, il a formé une charnière avec Dupont quand même très efficace.
Ça a fait quand même pas mal de polémiques cette semaine, notamment avec Mathieu Jalibert qui lui a été écarté du groupe parce que le choix du staff c'était de mettre sur le banc 6 avant et 2 3 quarts et donc de favoriser Thomas Ramos sur ce poste-là. Mais bon, le choix était le bon, hein. 7 pénalités sur 7, un travail énorme en défense, 14 plaquages quand même pour Thomas Ramos. Hein. Celui qui a le plus plaqué, c'est Roumat et Aldrit, avec Roumat, pardon, 18 plaquages, et ensuite viennent Aldrit et Peato Movaca avec 16 plaquages. Donc c'est vrai que le choix de Ramos a été un choix fort de l'équipe de France, quoi, du staff. Malheureusement pour Mathieu Jalibert, hein. Mathieu Jalibert qu'on n'oublie pas, qui est passé par le Stade Calédonien, qui était à l'école de rugby ici aussi, et qui a amené vraiment un plus à cette équipe, et le choix s'est avéré vraiment payant pour cette équipe de France.
Bon, on a vu une défense solide et disciplinée, c'était un point positif et important, ça aussi. On a quand même connu pas mal d'indisciplines sur les derniers matchs. Donc c'était quelque chose qu'il fallait quand même surveiller et corriger. Et là, ils ont vraiment été très 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 sérieux, avec une équipe des Blacks qui pilonnait.
L'équipe des Blacks, elle est monstrueuse. Hein. Quand on voit les individualités, les Savea et compagnie, les Mackenzie, Barrett, sont des joueurs très très performants qui ont un nombre important de sélections dans l'équipe néo-zélandaise. Et c'est vrai que l'apport du banc de l'équipe de France a été vraiment primordial parce que on s'est rendu compte aussi que dans le choix des joueurs qui étaient sur le banc, ce sont des joueurs qui peuvent évoluer à plusieurs postes. On l'a bien vu quand malheureusement Romain Taufifenois est rentré 6 minutes après, il est sorti sur blessure, sur une commotion. Et du coup, Charles Olivon est rentré, donc il a pu suppléer sur ce poste-là. Donc il y avait vraiment une polyvalence par rapport aux joueurs qui sont rentrés et qui peuvent jouer sur différents postes. On l'a même vu à la fin, puisque Peato a terminé en troisième ligne. Donc c'est la deuxième fois qu'il
c'est un peu Monsieur Plus en ce moment, Peato Movaca.
Oui, mais voilà, mais c'est dans la logique, je crois, aussi du coach, c'est d'avoir un gars comme Thomas Ramos qui peut couvrir deux postes, que ce soit l'ouverture ou l'arrière. Antoine Dupont qui peut aussi couvrir plusieurs postes. Donc c'est d'essayer d'avoir des profils de joueurs, parce que maintenant avec le rugby, et puis quand on voit l'intensité, hein, au bout de 5 minutes, il y a déjà deux joueurs qui sortent, parce que ça a été assez violent, quoi, même très violent sur les impacts. Donc il faut vraiment avoir des joueurs stratégiquement qui puissent couvrir plusieurs postes, donc avoir une certaine polyvalence et combler les sorties sur blessures.
Bon, cette équipe des Blacks, elle nous réussit finalement plutôt bien. C'est la première fois depuis 1995 qu'on enchaîne 3 succès contre les Blacks. Oui. Ça laisse augurer de bonnes choses, mais il ne faut pas s'enflammer. En tout cas, il y a un 6 Nations qui arrive bientôt. Il y a un match contre l'Argentine.
Il y a les Argentins d'abord. Les Argentins qui arrivent déjà la semaine prochaine avec un match plein et complet contre les Irlandais. Je les voyais gagner d'ailleurs sur la fin de match, tellement la fin du match était serrée. Et les Argentins sont très très difficiles à jouer, avec beaucoup d'improvisation et une très belle organisation, et notamment un pack d'avant très, très conquérant.
N'oublions pas qu'ils ont fait un très très beau rugby championship, hein, qu'ils ont battu chacune des 3 équipes, oui, des autres équipes de l'hémisphère sud quand même.
Absolument.
sur cette édition.
Ouais. Le gros morceau, les Argentins, ouais, la semaine prochaine. C'est vrai que le match phare de cette tournée, c'était bien sûr les Blacks, parce qu'il y a vraiment cette rivalité entre les deux équipes, mais c'est vrai que les Argentins, il va falloir les prendre au sérieux. Connaissant le staff, je pense que ça va être fait, mais il va vraiment falloir aussi récupérer des joueurs qui sont blessés, donc il y en a pas mal qui sont out suite à
ce match.
Ouais. Et puis Et puis le jouer vraiment sérieusement, il faut. C'est ce qui manquait un peu à l'équipe de France ces dernières années. Quoi. Depuis Largue Galtier, ça a évolué, mais c'était qu'on n'était pas capable d'enchaîner plusieurs victoires face à de grosses équipes. Bon, là, on y est arrivé. Bon, maintenant, on espère que ça va se poursuivre.
Il y aura forcément un petit air de revanche de ce qui s'est passé un peu à Mendoza en début d'année. Je pense que l'équipe de France aura aussi envie de montrer aux Argentins que c'est du rugby et du rugby avant tout.
Oui, et puis en Argentine, les Français, avec une équipe remaniée et très jeune, avaient quand même remporté assez facilement le premier test pour s'incliner ensuite sur le deuxième avec l'affaire entre les deux tests de l'affaire qu'on connaît qui avait, je pense, déstabilisé psychologiquement le groupe. Donc, ouais, après, je ne pense pas qu'au rugby, on soit sur ce type de valeur. Voilà, il va y avoir de l'affrontement, ça c'est sûr. Les Argentins, ils aiment ça, les Français aussi. Donc, ça risque d'être un match assez saignant.
On suivra ça le week-end prochain sur les ondes d'RB. On débriefera dès lundi prochain. On va enchaîner avec la MotoGP et Clément Muller avec vous. Jorge Martin, ça y est, enfin, il est champion du monde. Ça a été dur.
Ça a été dur, mais ça a été une belle saison. On l'avait dit déjà la semaine dernière. Bon, c'était déjà plus ou moins fait. Mais on voulait garder ça jusqu'à la dernière, toute dernière course, et c'est ce qui s'est passé justement. Donc, on a eu le dénouement de cette saison sur la toute dernière course du championnat, donc c'était assez sympa pour les spectateurs en tout cas.
Donc, Bagnaia donc, voilà. A tout fait pour repousser l'échéance.
Bagnaia a fait ce qu'il avait dit, c'est-à-dire qu'il venait pour gagner. Il fallait qu'il gagne, il ferait rien pour empêcher Martin d'avoir son titre, mais lui, il venait pour gagner les deux courses. Donc il a respecté son deal pour dire que, attention, en 2025, il est encore chez Ducati, encore en équipe officielle, donc il faudra encore compter sur lui, quoi.
Oui, parce que bon, il fait deuxième malgré tout, hein, à très peu de points.
Il fait deuxième à 10 points derrière sur une saison complète.
Sur une saison à 400 points.
Voilà, ça montre le niveau.
Là où c'est un peu frustrant pour lui, c'est qu'il gagne quand même 11 courses cette saison. Martin n'en gagne entre guillemets que 3. Donc c'est vraiment la prime à la régularité qui a payé, quoi.
Exactement, c'est souvent ça sur un championnat aussi long. Il y a beaucoup de pilotes qui ont été titrés qu'on n'attendait pas. Je repense au titre de Joan Mir quand il a été champion du monde avec quasiment aucune victoire. Si ce n'est pas aucune victoire, il me semble, en Grand Prix et qui remporte le championnat du monde. Bagnaia, c'est un showman, c'est un pilote avec d'une précision chirurgicale assez impressionnante. Par contre, c'est un pilote qui veut gagner. Et on ne peut pas gagner à chaque fois. Et vouloir gagner quand on n'a pas tous les outils, ben, souvent, ça nous met par terre. Et c'est ce qui s'est passé dans cette saison, avec quand même 8 scores à 0.
Ouais, 8 chutes.
8 chutes. Donc, en fait, sa saison se termine... il perd son titre sur ses chutes. Parce que 8 fois par terre, 8 fois marqué 0 points, ça fait beaucoup plus de traces que de se dire « Ok, là, je suis un peu moins bon, je viens rentrer que 5 points, mais... »
Vous êtes en train de nous dire qu'il va falloir qu'il apprenne à devenir un peu plus gestionnaire ?
Moi, je répète aussi ce qu'il dit lui-même. Hein. Il a eu cette analyse quand même, il a accepté de la livrer en disant faut qu'il apprenne en tout cas de ça et d'accepter... En tout cas, c'est ce qu'il a appris de Martin, que la régularité est plus importante que la victoire de temps en temps. Quoi.
Alors, premier pilote d'une écurie non officielle à remporter le titre de champion du monde, quand même. C'est quand même pas neutre.
Depuis Rossi. Donc il y a eu Rossi, il y a eu lui, mais ça fait plus de 20 ans d'écart, il me semble. J'ai plus l'âge. Il me semble que c'est 2000, je sais pas, c'est pas 2001. Donc ça fait très très longtemps, en tout cas. Depuis Rossi, donc si c'est pour dire. Oui, donc ça c'est sympa. Après, ce qui est sympa aussi, c'est que le champion du monde actuel bascule sur une nouvelle écurie l'année prochaine. Donc forcément, on surveille un champion du monde. Et donc on va surveiller Aprilia un peu plus en 2025. Et ça, c'est aussi chouette. On laisse une petite place à Aprilia, pourquoi pas l'année prochaine, dans la course au titre.
Ça va quand même être compliqué.
Il y a
beaucoup de transferts dans cette intersaison. Enfin, c'est déjà beaucoup de transferts actés. Déjà, il va y avoir beaucoup de changements au sein du paddock.
Il y aura énormément de transferts.
Vous pouvez nous donner les principaux ?
Bah, alors notamment, il y a Marc Marquez qui rejoint l'équipe officielle Ducati. Il faut savoir qu'il avait une moto de l'année précédente cette année. Donc c'est une moto qui a des régimes moteurs, par exemple, qui sont inférieurs de 1000 tours minute, ce qui est énorme hein, à ce niveau-là, la différence par rapport à Bagnaia. Il fait quand même 3e du championnat du monde avec une moto, on va dire, moins performante.
Et avec 3 ou 4 victoires en Grand Prix.
Et avec 3 ou 4 victoires. Gros changement, on va dire aussi le jeune Acosta qui rejoint l'équipe officielle KTM, qui était sur une équipe satellite cette année.
Le rookie de cette année.
Le rookie, le plus jeune qui vient d'avoir 20 ans. Il y a un plus jeune qui rentre l'année prochaine, qui est Fermín Aldeguer, qui est 5e du championnat Moto 2 actuellement. Donc c'est pareil, c'est un rookie qu'il va falloir surveiller, qui lui rentre sur, avec Alex Marquez chez Ducati dans une team satellite. Donc après, sinon, en gros changement, Ayogura, champion du monde Moto 2, qui rentre chez Aprilia Trackhouse. Donc ça aussi, ça fait partie des rookies à surveiller, on va dire. Donc ouais, il y a plein de petites choses qui vont faire que 2025 va être assez intéressante.
On l'a pas dit, mais ce Grand Prix avait lieu à Barcelone, qui, alors qu'originellement il devait avoir lieu à Valence, avec les inondations qu'il y a eu dans la région de Valence, le Grand Prix a été délocalisé et il a été rebaptisé Grand Prix Solidarité. Ça, il faut peut-être le noter un peu. C'était quand même extrêmement important aussi de faire acte de solidarité avec ce qui s'est passé en Espagne.
Exactement, surtout qu'il y a énormément de pilotes espagnols sur le plateau. Donc c'était très délicat, il y a eu beaucoup de questions entre est-ce qu'on devait maintenir le Grand Prix, est-ce qu'on devait l'annuler, est-ce qu'on devait le maintenir mais en l'appelant différemment, et ils ont trouvé quand même une belle parade en trouvant une nouvelle piste, en l'appelant différemment, et je pense que les pilotes, un Espagnol titré en Espagne... c'est pas mal, donc je pense qu'ils ont bien rendu hommage.
Ça aurait surtout pas mal tronqué le championnat du monde s'il y avait eu une course en moins, alors que
oui,
tout le monde savait
que
cette course,
oui,
elle devait avoir
effectivement,
lieu.
Effectivement. Mais non, je pense que c'est la meilleure façon de terminer un championnat du monde sur une note de solidarité. Et sur la toute dernière course, on donne le titre, donc ça nous a laissé jusqu'au bout
le suspense
savourer
était entier.
Le suspense, exactement.
Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la saison prochaine si on se projette déjà un petit peu? Quels seraient les favoris?
Moi je mets toujours, on va avoir les deux Ducati officiels, hein, faut pas se leurrer, il y aura Bagnaia et Marquez qui alors pour moi ça peut être compliqué d'avoir deux pilotes numéro un, parce que
ça veut dire qu'à un moment il y aura peut-être des consignes de course.
Il y aura des consignes de course et ça peut être compliqué. J'ai hâte de voir Acosta avec une KTM officielle, parce que c'est la première fois qu'une l'écurie Tech 3 fait aussi bonne place avec un rookie. Donc j'ai hâte de voir avec une moto officielle à 20 ans ce qu'il est capable de faire. Nouveau sponsor pour Yamaha, Pramac, qui est un ancien sponsor de date avec Ducati. On se dit peut-être qu'ils vont apporter de nouvelles choses, peut-être que donc il y a les essais qui vont arriver, on verra.
Qui nous permettrait de revoir Quartararo un petit peu aux avant-postes?
Ouais, je dirais peut-être pas encore aux avant-postes, mais déjà qui commence à marquer un peu plus de points et qui joue entre la 7e et la 10e place. Ça serait déjà très 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 bien pour la saison prochaine, on va dire. Et après, qu'est-ce qu'on peut surveiller d'autre? C'est délicat maintenant avec cette suprématie Ducati de reparler de Juan Zarco, 34 ans, toujours chez Honda. C'est même si on l'adore, le français, ça va être compliqué de le revoir aux avant-postes. Son coéquipier, ça sera un jeune issu de la Moto 2 qui est que 12e sur le championnat Moto 2. Donc, malheureusement, la team LCR, on la verra, je pense, pas trop l'année prochaine. Honda Repsol, ça va être compliqué aussi. Enfin, voilà.
Les pilotes vont bientôt rouler avec les motos 2025. Il y a deux séances prévues à bientôt, là.
Oui, c'est dans les semaines qui vont suivre. Il va y avoir les essais avec les motos 2025. Donc, ça ne va pas vouloir dire grand-chose tout de suite pour les pilotes qui débarquent sur des nouvelles motos. Mais par contre, ce qu'il va falloir surveiller, c'est par exemple un Marquez qui avait une 2023 et qui bascule sur une 2025, qui était déjà Ducati, voir comment il s'en sort avec une moto équivalente, on va dire, à Bagnaia.
Bon, voilà. On va suivre ses premiers essais.
On va suivre tout ça.
Et puis on va faire avoir un peu de patience avant le début de la saison prochaine.
Exactement. Il va falloir suivre tous les autres sports avec grand plaisir, en tout cas.
Eh bien, justement, on va basculer sur le tennis et l'ultra-domination de Yannick Sinner sur la saison et sur cette semaine du Masters, Sébastien Mallovini, où il a laissé que des miettes aux autres.
Oui, il a dominé, il n'a pas perdu un set. Il n'a pas perdu un set. On va dire, dans le jargon, il a joué tranquille. Il n'a pas... Alors après, avec le forfait de Djokovic, peut-être qu'on se dit qu'il aurait pu avoir un bon petit match, mais je crois que là, de plus en plus, il prend confiance et je pense que l'année prochaine, il va vraiment être l'homme à...
On a senti cette montée en puissance tout au long de l'année. Ouais. Ça a commencé à l'Open d'Australie où voilà, il s'en sort sur la finale contre Medvedev en 5-7 qu'il va chercher alors qu'il est plutôt mal embarqué parce que Medvedev a une stratégie où il sait qu'il ne peut pas tenir physiquement. Donc il est sur un jeu qui n'est pas le sien du tout.
Qui a tenu 2-7.
Voilà, qui a tenu presque suffisamment mais pas assez. Sinner s'est engouffré dans la brèche. Et après, on a l'impression que ça s'est enchaîné tout au long de la saison. Avec des victoires en Masters 1000, avec une victoire à l'US Open en mois de septembre, déjà contre Taylor Fritz, avec ce Masters. Voilà, 70 victoires, c'est oui, pas arrivé. C'est pas
arrivé défaites,
depuis 2016.
Je crois, dans l'année. Je crois
voilà, 70 victoires, 6 défaites. Il n'y a pas un joueur à 70 victoires depuis Murray en 2016.
Oui, et puis on sait que dans ce sport-là, plus on prend confiance, plus on est inarrêtable. On l'a vu même avec Alcaraz. Bon, Alcaraz, je crois qu'il était un petit peu malade sur ce Masters-là, mais il va avoir du. Je crois qu'au tête-à-tête, Alcaraz est encore devant parce que...
Oui, je crois qu'il a un match d'avance.
Oui, il doit avoir un match d'avance. Mais derrière, ça va être une belle saison entre les deux.
Alors, on disait... ça a déjà été le cas, hein, parce qu'ils se sont partagés les grands chelems tous les deux, puisque c'est Alcaraz qui gagne les deux autres.
Mais là, je vois Sinner un petit peu plus devant sur la prochaine saison. Alors, je me dis, je sais pas, par rapport à son style, après, sur terre battue, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour lui, mais... Mais il a vraiment un style, il joue tranquille, il est bien, il est jeune, il panique pas, il a un bon mental. Et...
On le sent effectivement très très serein, malgré aussi la petite affaire de dopage qui lui pend au nez.
Alors ça oui, là, il a tout, presque tous les joueurs contre lui, parce que bah, lui il a rien eu, et puis que voilà, après ça on n'a pas tous les éléments pour juger, puis on juge pas là-dessus, mais je dirais que c'est pas tout ça qui fait un grand joueur comme ça. Il a vraiment, alors pas du Roger Federer, parce que je pense que chaque joueur va à son caractère, mais il a vraiment, voilà, je trouve qu'il est tranquille, il est posé, il a que 21 ans, donc tout est devant lui. Après, évidemment, comme tout sportif de haut niveau, s'il y a la blessure, mais il sait bien s'encadrer. On voit dans ses interviews, il est très décontracté, il est très ouvert. Et ça, on disait qu'on sortait d'un Big Four, mais là on arrive aussi avec de très grands joueurs et que ça va être encore compliqué pour nos petits Français, parce que bah, je pense toujours au Cagorico, d'aller chercher un tournoi encore du Grand Chelem. Je pense que ça va être très compliqué.
Alors c'est sûr que Alcaraz et Sinner semblent avoir la main mise. Il faut quand même voir ce que va donner 2025. Ça sera l'année de la confirmation, c'est pas forcément la plus facile.
C'est vrai, parce qu'ils vont être attendus. Mais bon, après, il y a les Shelton, il y a les Taylor, Fritz. Il y a quand même, on a vu, même s'il ne faut pas mettre à la poubelle tout de suite Medvedev, parce que bon, là, il a pété un peu les plombs sur ce tournoi-là. Il nous a fait montrer son mauvais visage. Mais je pense qu'il va s'entraîner dur. Et même lui le disait en conférence de presse, que Sinner l'avait impressionné, mais qu'il allait s'entraîner pour essayer de venir, parce que ça reste des... Des athlètes.
On a Alex Zverev qui a fait une très belle fin de saison, ouais, aussi, en gagnant à Bercy, ouais, en faisant une demi là et en passant à quelques points, puisqu'il perd au tie-break du troisième, ouais, set sur Fritz.
Après là, c'est vrai que peut-être que là il paye le Bercy, mais voilà, même Tsitsipas, il faut pas le jeter dans la poubelle, parce que bah, il peut toujours.
Il va avoir du mal à faire une saison pire que celle qu'il a fait cette année.
Voilà, donc et puis c'est toujours des joueurs qui peuvent enlever un des favoris dans un tournoi du Grand Chelem. Donc ça va être une belle saison. Maintenant, après il n'y a que la blessure qui peut faire changer la saison, mais on va le savoir à Melbourne, parce que la préparation va rentrer en compte en début d'année. Je crois que ça commence, le gros tournoi va commencer par Doha. Et après, on a Brisbane, Sydney.
C'est ça. Et Melbourne qui commence aux alentours du 15 janvier.
Voilà. On ne pense pas les voir à l'ATP de Nouméa, mais on ne sait jamais.
Ils ne m'ont pas prévenu, en tous les cas.
Mais non, je pense qu'on va sur une... Après, chez les Français, l'année prochaine, il faudra peut-être compter avec Péricard, qui... J'ai du mal avec son nom.
Mpetchi Péricard, Giovanni Mpetchi Péricard.
Qui était venu en début d'année.
Voilà. Qui a explosé cette année, complètement.
Bah, passer de 240 mondiales à 30 mondiales, c'est quand même pas mal. Mais après, il faut le digérer. Il va falloir qu'il refasse la même chose.
Pour lui aussi, ça va être l'année de la confirmation. Et là, il sera attendu.
Oui.
Ça ne peut pas être pareil.
Donc j'espère qu'il ne fera pas... Celui qui avait fait ça, c'est Benoît Paire. J'espère qu'il ne fera pas la même carrière que Benoît Paire. Mais non, après, je pense qu'on va sur une bonne année.
On a Arthur Fils qui a un profil intéressant aussi.
Oui, il y a des bons petits Français. Même Humbert qui fait finale quand même à Bercy et qui montre que il est là. Après, on sait que c'est le syndrome français, ça va être compliqué d'aller chercher un grand chelem, mais pourquoi pas. On ne sait jamais maintenant.
Tout est possible.
Ils arrivent en finale d'un Master 1000, on peut aller... Mais il faut tenir 15 jours.
Il faut repousser l'impossible en se disant que c'est possible. La fameuse phrase de Claude Onesta. On peut dire un mot sur Taylor Fritz, qu'on connaît ici, puisqu'il avait fait finale une année. Qui termine quand même très très bien l'année, qui est un peu lui aussi l'homme fort de cette fin de saison, derrière Sinner et Zverev, je dirais. Il fait quand même finale à l'US Open, même s'il est très frustré après sa finale de ne pas avoir pu s'exprimer comme il le souhaitait, mais Sinner en a totalement empêché. Ça s'est reproduit là, et deux fois il prend 6-4, 6-4 cette semaine sur Sinner.
Oui, deux fois dans les...
Mais il est là, il est là, il est là,
il
est dans les 5.
Il a son propre jeu. En plus, il est dans une optique où, comme on disait tout à l'heure, il a pas de coach sur les tournois. Lui, il se dit qu'un coach ne veut pas lui amener un plus parce que c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui ressent les choses. Je trouve qu'il a pas tort. Il a une bonne mentalité. On croit qu'il ne se bagarre pas sur le terrain, mais il se bagarre. Parce que c'est vrai qu'il a un jeu nonchalant. On pense qu'il marche, mais je pense qu'il marche pas trop. Sinon, ça serait facile. Mais non, il va falloir aussi compter sur lui l'année prochaine parce que il n'est pas passé loin à chaque fois. Donc, on sait qu'on a eu des grands champions qui ne sont pas passés loin sur des saisons et que l'année d'après ils ont concrétisé. On pense à Murray, on pense à pas mal de joueurs comme ça. Donc il va s'entraîner. Je pense que là ça. Du fait qu'il n'y ait plus des Roger Federer, des Nadal, des gens qui dominaient tout le temps, tout le monde se dit qu'ils peuvent gagner un tournoi du Grand Chelem.
Il y a des coups à jouer.
Il y a des coups à jouer, oui.
Et bon, on ne va pas enterrer Djokovic, mais je pense qu'il aura envie d'être là sur l'Open d'Australie. Hein.
Ouais,
tournoi, donc, oui, oui. Donc en début de saison, je pense qu'il va avoir à cœur d'essayer de remettre un peu les pendules à l'heure et de prouver qu'il est toujours là, sachant que ça risque d'être une de ses dernières saisons, même s'il prétend vouloir jouer jusqu'à 40 ans.
Oui, puis bon, c'est quand même un client à prendre. À chaque fois, il ne perd pas au premier tour. Il est là et je pense qu'en plus, quand on joue, même si on s'appelle Sinner, quand on joue un Djokovic, on se dit qu'il y a quand même 23 tournois du Grand Chelem. C'est quand même des gens, comme on dit, qui ont de la valise. Donc, non, ça va être... Après, j'espère pour lui qu'il arrivera à faire une belle saison. Parce que après, ça s'enchaîne les blessures. Et quand ça s'enchaîne comme ça, c'est jamais bon.
On l'a vu avec Raphaël Nadal pour terminer sur le sujet tennis qui va donc tirer sa révérence cette semaine.
Une belle Coupe Davis, maintenant c'est le 8-4, appellent ça.
Sur le Final 8 de la Coupe Davis.
On va peut-être avoir un Espagne...
Espagne-Italie en finale.
Ah, ça serait beau.
Bon,
On
prend date et on en reparlera la semaine prochaine.
Ouais.
Messieurs, je vous propose d'enchaîner avec le débat de cette émission sur l'équipe de France de foot. Vous fait-elle toujours vibrer ? On a une saison 2024 assez décevante pour cette équipe de France. Alors le match de ce matin a un petit peu rebattu les cartes, on va dire, en tout cas redoré un petit peu le blason de l'équipe de France. Même s'il y a eu une demi-finale à l'Euro perdue contre l'Espagne, une qualification acquise donc pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, on n'a pas retrouvé une équipe de France flamboyante, on n'a pas retrouvé une équipe de France qui marque beaucoup de buts. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, vous, Sébastien Baldovini, cette équipe de France ? On a aussi des joueurs qui ont arrêté, hein. On a quand même eu Griezmann, Giroud notamment, qui ont leur révérence. Et on voit qu'aujourd'hui, effectivement, il nous manque.
Après, moi, je dirais que dans cette équipe de France, ce qui manque, c'est peut-être le cœur. C'est que les Giroud, comme on disait, les Griezmann, tous ces, tous ces anciens joueurs, ils jouaient avec le cœur. Ils étaient, pour eux, l'équipe de France, c'était beaucoup. Maintenant, on a des jeunes joueurs qui jouent dans des grands clubs, qui enchaînent les matchs tous les trois jours, qui gagnent beaucoup d'argent, qui n'ont peut-être pas la même valeur du maillot, qui évidemment sont contents d'être en sélection, mais c'est vrai qu'on les voit pas comme des morts de faim sur les matchs. Et en face, il n'y a plus de petite équipe. Donc la différence...
On l'a vu face à Israël la semaine dernière.
Bon, après, c'est vrai qu'ils jouent à 10 derrière, mais Israël, mais bon, ils sont allés chercher le 0-0.
Et ils ont battu la Belgique ce matin.
Donc, donc il n'y a plus de petite équipe. Maintenant, tous les joueurs jouent dans des grands clubs, dans des... Donc c'est pour ça qu'il va falloir que peut-être le sélectionneur travaille beaucoup plus sur cette fierté de jouer pour son équipe nationale et qu'ils aillent, se mettre minables. On l'a vu avec l'équipe de France de rugby, ça fait plaisir à voir cette fin de match où c'est des... Voilà, c'est des gladiateurs, quoi. Ils vont chercher, et on ne voit plus ça sur l'équipe de France. On l'a vu au milieu, en début de match, là, contre l'Italie, ils se sont fait manger, et après, bon, heureusement que ce n'est pas une grande équipe d'Italie, hein. C'est plus l'équipe d'Italie que c'était avant. Hein.
Bruno Salvé, est-ce que c'est pas aussi la fin du cycle Didier Deschamps? Est-ce que ça s'annonce pas un peu comme la fin du cycle de notre sélectionneur?
C'est compliqué quand on est entraîneur et quand on a coaché, comme disait Sébastien, des équipes qui ont eu de tels résultats, titre de champion du monde, quand on a coaché des gars comme Giroud, comme toutes les stars.
Griezmann, Mbappé,
etc. De recommencer un cycle. Est-ce que le discours de l'entraîneur passe-t-il toujours? Est-ce que... voilà, ce sont des questions qu'il faut se poser aussi. Bon, après, voilà, les résultats sont là. Il termine quand même premier de la poule, hein, et puis devant les Italiens. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Sébastien. Je trouve qu'il n'y a pas cette niaque, cette grinta, comme disent les Argentins, on a l'impression qu'ils sont un peu en dilettante, à l'image un peu quand on les voit arriver à Clairefontaine et descendre de leur voiture, tous endimanchés et habillés comme des starlettes. Excusez-moi l'expression, mais moi, ça, c'est des choses qui me dépassent. Donc je pense que, voilà, moi en plus, je regarde très peu le foot à la télé. Mais je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire par rapport au maillot, aux valeurs, bien sûr. L'abnégation, on joue pour son pays, on joue... Mais après, il faut les comprendre aussi. Les footballeurs sont des gamins qui ont été pris dans des centres de formation très jeunes, qui n'ont pas eu de cursus scolaire ou autre très abouti. Donc... Bon, voilà, ils jouent au foot, et puis du jour au lendemain, ils gagnent très peu, hein, arrivent à gagner autant d'argent, mais très peu, quoi, ils deviennent millionnaires, multimillionnaires, et donc c'est sûr que ça monte à la tête de ces jeunes. Donc après, c'est compliqué de leur dire, ben voilà, il faut que tu t'arraches pour le maillot, pour tout ça, donc c'est compliqué, c'est très compliqué.
Clément Muller, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette équipe de France nous fasse de nouveau vibrer ?
Moi, je pense qu'effectivement, je rejoins exactement ce qui vient d'être dit. J'ai plus l'impression de voir un match entre des hommes d'affaires qu'entre des footballeurs. Et effectivement, je pense que quand on regarde du foot, on a toujours derrière la tête ce gros dollar quand il court, ce gros chèque. Et du coup, je pense que ça nous aveugle un peu sur les performances réelles, sportives et humaine de ces joueurs.
Au-delà de l'aspect financier que j'entends, est-ce qu'on s'ennuie pas en regardant un match de l'équipe de France aujourd'hui? Est-ce qu'on a envie de se mettre devant en se disant je vais regarder un match, ça va être plaisant, ou non, je vais encore regarder un match de l'équipe de France, ça va être chiant?
Ouais, moi je pense que, enfin, moi je regarde plus le football parce que justement on a trop communiqué sur des aspects qui me plaisaient pas. Du coup, je me suis désintéressé du football. Et du coup, j'y retrouve plus d'aspect purement sportif et de valeur du sport, notamment quand je regarde un match de l'équipe de France. Ça peut être différent quand je regarde des petits matchs, ne serait-ce qu'un match le dimanche à Magenta, mais je retrouve pas ça en regardant un match de l'équipe de France, entre guillemets, quoi.
Sébastien Vallovini, vous parliez de valeur, vous parliez d'éducation aussi. On le voit un petit peu au moment de la Marseillaise. On l'a vu au Stade de France ce week-end avec l'équipe de France, où les 80 000 spectateurs chantent la Marseillaise a cappella. C'est des images qu'on a du mal à voir dans le foot malgré tout.
Oui, parce que bah, y a pas cette valeur de maillot. C'est vrai, quand on regarde par exemple les Jeux Olympiques avec l'équipe de Thierry Henry, il a réussi à en faire des conquérants parce qu'ils n'étaient pas du tout au niveau puisqu'ils n'avaient pas les grands joueurs. Il n'y a pas de grands joueurs parce que les clubs ne les libéraient pas. Et ils vont quand même au bout et pas, parce qu'ils se sont arrachés. Et moi, je pense que dans le sport, et on le voit aussi même dans la Ligue des Champions, toute équipe qui va gagner s'arrache. Et ça, moi, à chaque fois, je pense à la Grèce qui a été championne d'Europe.
En 2004, absolument.
Et qui a battu même la France. Eh ben, je suis désolé, il y avait zéro buteur, parce que je ne sais pas s'ils ont marqué beaucoup de buts.
Il y en a au moins un qui nous a marqué, il s'appelle Charisteas, il a marqué contre l'équipe de France. Ouais.
Mais par contre, à peine le ballon retombé, ils étaient quatre dessus, et ils se sont, je pense qu'ils ont dû mettre 2 ans à s'en remettre, tous.
Ils avaient faim, comme on dit dans le jargon.
Et voilà, et c'est ce qui manque, et c'est bien dommage, parce que quand on voit les anciennes équipes de France, bah voilà, c'était des bagarreurs. Je pense qu'on regarde le but de Thuram en 98, bah, voilà, ils vont chercher.
On a retrouvé ça un petit peu ce matin, par moment, avec certains joueurs. Je pense à Lucas Digne, je pense à Rabiot, qui ont fait de gros matchs, qui sont allés gratter des ballons, mais qui ne sont pas les titulaires habituels du poste. Et peut-être que c'est ça qui leur a donné cette niaque.
Ben je pense, oui, parce qu'ils vont chercher une place, parce qu'eux, on voit qu'ils jouent avec Lucas Digne aussi, il n'est pas... à chaque fois qu'il joue, il joue avec du cœur, il joue avec... il manquait Jonathan Clauss, qui lui, pareil, joue avec le cœur, et comme disait Bruno tout à l'heure, c'est pas ceux qui gagnent le plus d'argent, mais voilà, c'est ceux qui... Prenez un Koundé, alors il joue bien, il est à Barcelone, il est tout ce qu'il veut, mais l'attitude sur le terrain, pour moi... pas qu'il me sort des yeux, mais c'est dur. Marcus Thuram, à un moment, on se demande...
Il n'y a plus que Didier Deschamps qui lui fait confiance. Hein,
il marche sur le terrain, le ballon est à 3 mètres, il n'y va pas. Nous, on est derrière l'écran, presque, si on ne le pousse pas, bon, évidemment, on n'est pas à sa place, mais on se dit que ce n'est pas possible. Quand on joue contre l'Italie, un match comme ça, on doit vomir sur le terrain.
Dans son stade.
Ah oui, en plus. Thuram. Et qu'on a pris en plus une valise à l'aller au Stade de France. Enfin, voilà, c'est... Donc, oui, je pense qu'il y a... Peut-être je reçois un Bruno, il va peut-être changer, quoi. Dans les grands clubs, ils font ça, ils changent d'entraîneur. Je pense qu'il faut revoir, et puis peut-être prendre des gens qui sont dans des moins bonnes équipes pour peut-être montrer les meilleures valeurs.
Alors, on suivra l'actualité de l'équipe de France donc, dans les semaines à venir, et voir si... les valeurs arrivent à mieux passer et comment elle va se comporter en termes de jeu. Mais si on arrive à la fin de cette émission, je vous propose de me donner vos coups de cœur. Clément Muller, on va commencer par vous. Votre coup de cœur pour cette semaine ?
J'en ai 40.
Ça va être
non,
trop long.
C'est les 40 marins qui ont pris le départ du Vendée Globe. Donc le tour du monde à la voile en solitaire, sans équipage, sans assistance,
voilà. sans escale,
et ils ont entre 23 et 65 ans, et voilà, je trouve que c'est quand même
une belle aventure humaine.
C'est exceptionnel.
Des vrais guerriers
et guerrières.
Bruno Salvé.
Moi, je vais revenir sur le rugby. Hein. Peato Movaka, bien sûr. 3e victoire d'affilée contre les All Blacks. Je me rappelle, lors de sa première confrontation contre les All Blacks, il a même marqué 2 essais. Donc voilà, même s'il n'a pas été parfait, notamment sur ses lancers en touche en début de match, il a, de par son énergie, de par son activité, ça reste mon coup de cœur du jour.
Très bien. Et Sébastien Madomeni, on va terminer par vous.
Ah bah moi c'est pareil, je vais rester dans le tennis parce que bah y a un grand qui va nous quitter cette semaine, c'est Rafael Nadal qui va finir sa carrière, une grande carrière, et je l'ai écouté et encore c'est un grand joueur puisque évidemment il va jouer la Coupe Davis pour la dernière fois, il pourrait se dire je vais jouer tous les matchs parce que c'est ma dernière, et il a dit si j'ai pas le niveau, il a dit à son capitaine je ne jouerai pas, et ça déjà ça montre que c'est un grand champion.
Bon, eh bien, on suivra là aussi cette fin de carrière de Nadal qui risque d'être un peu émouvante en Espagne chez lui en plus.
Oui, et puis je pense que les coéquipiers sont remontés à.
Voilà, ils vont vouloir le faire partir avec un titre.
Oui. Bon. Ça va être sympa.
Eh bien, on suivra ça aussi cette semaine, messieurs. Merci beaucoup à tous les trois, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.